les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Bienvenue à toutes et à tous sur notre antenne. Nous entamons aujourd'hui la retransmission de la rencontre scientifique des 150 ans de la SSLA, la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Dans cette première partie, nous allons entendre le mot d'accueil de la présidente de la SSLA, Josette Pontet, qui sera suivie de l'ouverture du colloque par Yves Gald, adjoint à la culture de la ville de Bayonne. Puis Josette Pontet présentera cette rencontre scientifique. Et ensuite, ce sera la séance inaugurale, la SSLA, passé et présent sous la présidence de Jean-Paul Dartiguelong, ancien bâtonnier. Et nous écouterons la première intervention d'Olivier Ribeton, conservateur en chef honoraire du Musée basque de l'histoire de Bayonne, intervention intitulée « Le rôle fondateur de la Société des sciences, lettres et arts dans la création du Musée basque et de la tradition bayonnaise ». Mais tout de suite, le mot d'accueil de Josette Pontet, présidente de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne.
Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de prononcer l'ouverture de ce colloque, de cette rencontre scientifique transfrontalière, ce qui est quand même une première pour un colloque que nous organisons à la SSLA au moins. Et le discours d'ouverture va être prononcé par M. Yves Hugald, qui est l'adjoint à la culture de la ville de Bayonne, entre autres titres, qui pourrait s'allonger un peu, mais nous retiendrons celui-ci pour cette manifestation. Et je lui donne tout de suite la parole avant de la reprendre ensuite pour présenter les journées qui vont nous réunir donc jusqu'à demain soir.
Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et tous, d'où que vous soyez, puisque comme vient de le préciser Madame Pontet, nous avons l'honneur ce matin aussi de recevoir des amis d'Outre-Bidassois, ce dont nous félicitons. C'est de ce dont, en ma qualité aussi d'adjoint chargé des villes jumelles, je ne peux que me féliciter. Vous pouvez l'imaginer, puisque je n'ai besoin de préciser à personne ici que parmi les grandes villes jumelles d'histoire pour Bayonne, il y a bien sûr Pamplona. Et que par conséquent, je suis aussi très heureux à ce titre de développer ce type de contact, vous pouvez l'imaginer. J'ai d'abord le devoir d'excuser Monsieur le maire, qui, comme tout bon maire qui se respecte, a pris l'avion pour rejoindre le congrès des maires à Paris, où il représente notre ville et où il ne manquera pas, comme il le fait à chaque fois, d'aller au-devant de quelques contacts dont nous avons ensuite, il faut bien le reconnaître depuis quelques années, moi qui en ai l'expérience, quelques retombées parfois sonnantes et trébuchantes. Donc, il faut porter Monsieur le maire à Paris avec le plus d'enthousiasme possible, pour toutes ces raisons. Aussi, vous dire que j'ai approché le mot d'accueil que Madame la Présidente m'a confié avec une attention particulière, simplement parce qu'il se trouve que je fais partie de ces adjoints à la culture qui sont viscéralement attachés à la nature même de la ville dont ils ont l'honneur d'être élus, viscéralement. Vous êtes, vous, des savants, mais pour croiser beaucoup de vos visages assez fréquemment dans d'autres circonstances que celles qui nous rassemblent aujourd'hui, je sais que ce mot a du poids. Vous faites en effet partie, en tout cas toutes celles et tous ceux que je connais ici, d'hommes et de femmes qui partagent un savoir au plus haut niveau, une expertise historique, et sous-jacent en permanence le courant d'une vraie passion pour la ville. Ce courant qui fait qu'en définitive, l'histoire est au service d'une passion plus générale que l'on peut avoir pour une cité. Et Dieu sait si Bayonne est une cité au sens le plus historique du terme. Ce n'est pas ici que je vais l'apprendre à qui que ce soit. Alors vous, vous baignez dans cette réalité historique de la ville. Mais ce en quoi, depuis 150 ans, vous êtes particulièrement précieux aux Bayonnaises et aux Bayonnais, c'est que vous savez, à travers le rendu de nombreux rédactionnels, de nombreuses interventions, de nombreux colloques comme celui-ci, vous savez alerter ceux et celles de cette ville qui ont beaucoup moins de connaissances que vous sur la ville, sur des raisons objectives, objectives et historiques de l'aimer encore plus. Peut-être même, et je sais de quoi je parle puisque j'ai quelques exemples en tête, d'attirer vers l'histoire de cette ville des Bayonnaises, des Bayonnais, des gens qui plus généralement du territoire Pays Basque ou du sud des Landes s'intéressent au sort de notre ville, d'attirer ces gens qui, a priori, sont un peu éloignés de la chose historique, vers des éléments d'information précis. Et lorsqu'on est élu de cette ville et qu'on a besoin d'aller au fond d'une information historique, vers qui, vers quoi se retourne-t-on ? Bien évidemment, vers la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Il y a donc dans ce que je suis en train de vous dire comme une forme de compagnonnage précieux entre les édiles et bien sûr les spécialistes et les experts de l'histoire de Bayonne que vous êtes. C'est précieux parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sens. Je fréquentais hier, pour toute autre raison, des jeunes garçons et des jeunes filles dans un établissement scolaire de cette ville et je me posais les vraies questions qui, à chaque fois, me taraudent. Seront-ils aussi passionnés de leur ville que nous le sommes? Ils sont en effet sous le feu ardent d'informations qui leur viennent du bout du monde en permanence. Ils ont leurs yeux braqués sur les téléphones portables ou sur des écrans qui leur débitent un nombre incalculable d'informations non hiérarchisées, souvent non renseignées, et vis-à-vis desquelles ils se font d'ailleurs souvent des opinions très tranchées, comme on peut en avoir quand on a 18 ans. Ai-je le droit de dire ici que cela me fait un peu peur ? Nous sommes face à une nouvelle génération qui, plus que jamais, aura besoin d'interlocuteurs tels que celui que vous incarnez et que vous représentez. Car indépendamment du cercle plus ou moins fermé des experts que vous êtes, vous avez aussi cette mission de donner du sens à l'amour ou à la passion que l'on peut avoir pour une cité ou pour une ville. Il est très facile de hurler « Allez les bleus et blancs » à 15h au stade. J'ai d'ailleurs autour de moi dans ces moments des hommes et des femmes dont je découvre à travers ce cri une passion pour la ville qui ne m'avait pas jusqu'à présent complètement marqué. Et je pèse mes mots. Il est plus difficile d'aimer une ville avec des raisons de l'aimer. Et Bayonne fait partie de ces cités qui fournissent largement des raisons de l'aimer, avec passion, avec intérêt. Et plus on se plonge dans l'histoire de cette ville, et c'est à travers souvent vos interventions que je lis ou que j'écoute, que je l'apprends petit à petit, plus on se rend compte qu'elle a une identité, une particularité, et qu'on est, par définition, de moins en moins surpris d'être aujourd'hui les héritiers, allez, je vais dire le mot, d'une forme de tempérance et d'écoute de l'autre. Bayonne a été traversée par suffisamment d'influences, et vous êtes là pour nous le rappeler, pour nous convaincre du fait que les sociétés qui s'organisent de façon très radicale et clivée ne s'ouvrent pas à de beaux lendemains. Tout cela, c'est à travers l'histoire qu'on l'apprend, et je le répète, à travers le rôle précieux que représente la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Si je viens de dire cela ici, aujourd'hui, c'est parce que la tentation naturelle serait peut-être, lorsqu'on regarde une dame aussi prestigieuse que la Société des sciences, lettres et arts, de ne la voir qu'avec le prestige et la forme d'admiration qu'on peut porter à une dame institutionnellement installée et qui fait partie, je ne vais pas entrer dans ce débat, Josette, en tout cas des deux ou trois plus vieilles, anciennes sociétés de ce type dans notre ville. de ce type, la plus vieille et la plus ancienne, incontestablement. Après, on peut avoir quelques contestations sur une ou deux dates, mais la réalité, c'est que vous faites partie de ce paysage culturel bien avant beaucoup d'autres, et que cela vous donne une forme de prestige qui ne doit surtout pas nous conduire à vous considérer comme des hommes et des femmes du passé. Vous travaillez sur l'histoire, mais pour nous alerter sur le présent et nous responsabiliser sur l'avenir. C'est à travers le travail que vous faites, je le répète et je conclue sur ces termes, que les nouvelles générations en particulier seront des générations plus responsables devant l'avenir de la cité. On ne peut pas, c'est un lieu commun que de le dire, mais je veux le répéter ici, travailler sur le présent et l'avenir dans tous les domaines de gestion publique sans regarder vers le passé d'une collectivité que l'on est censé représenter. Vous êtes des veilleurs, vous êtes quelquefois des alerteurs. Il faut savoir vous écouter, vous entendre, pour ne pas tomber, par exemple, dans quelques tentations de réécriture de l'histoire, dans quelques tentations d'instrumentalisation de tel ou tel pan de l'histoire au profit d'idéologies qui pourraient nous habiter. Et je ne m'exclus pas du tout du procès que je suis en train de faire. Je dis simplement que vous êtes ici pour donner une valeur objective aux éléments que vous donnez, et c'est par cette objectivité-là que nous avons la possibilité de nous fonder ensuite sur des arguments qui pourront nous permettre de regarder Bayonne avec confiance. Donc je vous dis que vous êtes certes une institution reconnue, prestigieuse et admirée à Bayonne, mais que l'on compte beaucoup, beaucoup sur vous aussi pour l'avenir de cette ville. Merci à toutes et tous et très bons travaux durant 2 jours.
Monsieur le maire, monsieur le consul d'Espagne, messieurs, mesdames les élus des différentes cités de notre région, chers amis surtout, je suis très heureuse et en même temps très inquiète après ce que vient de dire notre conférencier inaugural sur le rôle que l'on attend de nous qui paraît quand même extrêmement élevé. Je pense qu'on pourra relever le défi cependant. Nous sommes là pour cela. Alors, je voudrais en quelques mots rappeler à la fois très succinctement les grandes étapes de notre société vénérable et en même temps tracer les conditions dans lesquelles ce colloque doit se développer. D'abord, 150 ans, comme on vient de le rappeler, c'est un âge respectable pour une société savante. Certes, elle ne bat pas tous les records de longévité. La Bascongada, qui est aujourd'hui ici présente, a été fondée en 1765. L'Académie royale des nobles et beaux-arts de Saragosse, qui est aussi représentée ici, a été fondée en 1792. Donc nous sommes évidemment très loin derrière. Mais en fait, au niveau local, régional, nous tenons bien notre rang comme ancienne société, et en tous les cas à Bayonne, je rassure monsieur l'adjoint à la culture, la société est effectivement la plus ancienne de Bayonne, à quelques peut-être encablures près, mais elle a été reconnue comme telle et honorée comme telle il y a déjà quelques années. 150 ans, c'est donc un âge tout à fait remarquable. Et pour cet anniversaire, en fait, j'ai essayé de regarder ce qui s'était fait auparavant et de voir ce que l'on pouvait faire aujourd'hui pour célébrer dignement et dans le contexte actuel cet anniversaire. Il faut dire qu'il y a 100 ans, pour les 100 ans de la société, il y a 50 ans, l'anniversaire de la société a été célébrée de façon très officielle, très protocolaire, dans l'esprit du temps. La commémoration a commencé par la messe à la cathédrale, où ont été présents des chanoines membres de la société, en présence du sous-préfet, en présence des députés, en présence de toutes les autorités religieuses de la Bayonne et de sa circonscription. En fait, les corps constitués ont tous prononcé des discours. Le maire, bien entendu, le président de la société et quelques représentants, évidemment aussi, des autorités présentes. En fait, elle s'est conclue par un banquet solennel à l'hôtel des Basses-Pyrénées qui a été véritablement un moment fort de cette célébration. Cette manifestation a été suivie ensuite par la publication d'un numéro spécial de la société, le numéro du centenaire, et cela a donné lieu à un volume de 560 pages auquel ont contribué une trentaine d'intervenants. Devenue présidente de la SSLA, j'ai proposé au bureau, alors animé par le vice-amiral Dambier, d'organiser une rencontre des sociétés savantes pour les 130 ans d'existence de notre société. Et j'ai réuni, et la société avec moi, des sociétés savantes du Sud-Ouest autour du professeur Chaline, qui était un des spécialistes en histoire contemporaine des sociétés savantes et qui avait travaillé beaucoup sur celle de Rouen, entre autres, et de Normandie en général. Le principe était de s'interroger sur l'avenir de nos sociétés savantes qui, déjà, il y a 20 ans, apparaissaient menacées dans leur existence par la concurrence des médias, par l'informatisation des données, par l'individualisme de la société. Et cette rencontre, dont un fascicule a été tiré et que vous pourrez prendre à esquisser autour d'une table ronde des perspectives à venir que nous avons plus ou moins respectées. Toujours présente à la tête de la SSLA, j'ai pensé que la célébration des 150 ans de la société devait être un temps fort dans la vie culturelle de la ville et de la région, et qu'il serait bien, dans le contexte actuel, qu'elle prenne une dimension transfrontalière, un échelon aujourd'hui de référence dans notre région. Et l'idée a donc été de rassembler les sociétés à un échelon interrégional. Les sociétés d'Euskadi, de Navarre et d'Aragon ont été sollicitées grâce à l'entremise de Marie-Bernadette Dufourcé, qui est entrée en lien avec ces sociétés. Et le résultat a été véritablement un accueil favorable à notre invitation. Et je remercie donc aujourd'hui ces sociétés savantes d'Outre-Pyrénées d'avoir envoyé des représentants pour communiquer lors de cette séance de commémoration. En fait, il faut voir que ce caractère transfrontalier est devenu aujourd'hui une valeur politique, je dirais, au sens large du terme, pas du tout partisane, et que la réflexion s'est portée sur l'existence de valeurs communes, d'une unité possible dans cette perspective d'échange, de rassemblement sur un territoire beaucoup plus large que le territoire régional que nous avions jusqu'à présent. Et il m'a paru évident que, comme l'a dit Yves Hugald tout à l'heure, l'histoire était un secteur indispensable à interroger et que les sociétés savantes étaient un vecteur essentiel de cette approche multiculturelle. Mieux connaître les sociétés transfrontalières dans leurs différences et leurs points communs passe certainement par des rencontres comme celle que nous organisons aujourd'hui. Et l'étude même des personnalités que nous avons adjoint à l'étude des sociétés savantes montre évidemment qu'entre les régions qui sont de part et d'autre des Pyrénées, les échanges étaient déjà très fréquents. N'oublions pas les liens qu'avait noué le comte de Peña Florida avec Bayonne, d'une part, mais au-delà, et particulièrement avec Bordeaux, où il a été reçu comme membre correspondant de l'Académie royale des sciences et arts de Bordeaux, avec l'apport d'ouvrages venus du Pays basque, d'Aspecia entre autres, et que Marie-Bernadette Dufourcé avait présenté lors de sa réception comme membre correspondant à cette académie. Ce que va sans doute rappeler Begonia Cava-Mesa cet après-midi en évoquant cette formation tout à fait remarquable que l'on doit en partie au moins au comte de Peña Florida. Mais là ne s'arrêtent pas les échanges. Nous évoquerons cet après-midi José Yangas y Miranda, qui est venu en France, plus particulièrement à Bayonne, et son exil a conforté dans ses idées celui que va évoquer ou qui a travaillé sur cette personnalité, Juan Maria Sanchez Prieto, professeur de l'Université de Navarre, que son ami présentera, car M. Prieto est indisponible pour des raisons médicales. À l'inverse de ces Espagnols, Navarrais et autres venus en France, eh bien, il y a des Français en Espagne. Et il est évident que sera évoquée aussi la trajectoire d'Aristide Cavaille-Coll, dont les orgues romantiques peuplent le Guipuscoa. Et donc on a véritablement là des échanges. Évidemment aussi, on peut voir dans l'évocation des Cabarrus, que je ferai rapidement avec Dominique, qui est un excellent représentant, combien les Bayonnais étaient liés à l'Espagne et plus particulièrement à Bilbao, Saint-Sébastien, Pampelune, dont Bayonne était quand même un avant-port extrêmement important. De la même façon, il faut rappeler quand même que la région a été très parcourue par les Basques des deux côtés de la frontière à tout moment. Et une anecdote quand même significative, les ingénieurs du roi de Bayonne au XVIIIe siècle considéraient dans leur rapport que le meilleur port de la France dans la région, c'était Passarès. Donc vous voyez qu'il y a évidemment ces flux extrêmement importants. Je ne citerai pas Pierre Lesseps, que nous évoquerons, mais dont la famille avait des relations avec l'Espagne et que lui-même, Pierre, je crois, a été chargé de récupérer les dettes qu'avait fait Marianne de Neubourg lors de son exil en France. Le colloque témoigne donc de l'histoire de ces échanges et que nous souhaitons poursuivre. La première partie de ce colloque sera consacrée à l'étude des sociétés savantes en elles-mêmes Et la deuxième partie, que j'ai déjà évoquée, consistera à tracer les portraits de personnalités qui ont marqué leur société elle-même ou leur temps. Et nous aurons ainsi des horizons extrêmement variés à découvrir. Notre idée, c'est évidemment que c'est une étape dans des relations que nous souhaitons plus nourries avec les sociétés savantes de transfrontalières, le terme étant aujourd'hui tout à fait convenu, et que nous avons choisi de mettre en exergue. Et nous sommes très heureux d'accueillir ainsi des sociétés à la fois du Grand Sud-Ouest, même qui le dépasse, puisque nous aurons un représentant de l'Académie de Clermont, nous aurons des représentants de Dax, de Pau, de Périgueux, mais aussi des représentants des sociétés de Navarre, de Scadie et y compris d'Aragon. Je ne veux pas terminer cette brève présentation sans remercier tous ceux qui sont présents, tous ceux qui se sont évidemment impliqués dans ce travail et ceux évidemment qui vont proposer des communications ce matin et qui témoignent, ou demain, et qui témoignent de leur intérêt et de leur soutien et souvent de leur fidélité à la SSLA que nous vénérons tous parce qu'elle représente un pan très important de la culture bayonnaise et au-delà de Bayonne, de ses remparts, elle a irrigué tout un pays et elle souhaite poursuivre cette œuvre avec le concours des sociétés espagnoles transfrontalières. Merci de votre attention. Je déclare donc le colloque et la rencontre ouverte et nous allons commencer, évidemment, comment pourrait-il en être autrement, par évoquer la société savante qui est aujourd'hui honorée, la société SSLA de Bayonne. Je laisse la place à Jean-Paul d'Artiguelong qui va présider cette première séance qui va voir se développer les grands axes de cette société à travers quatre points particuliers. Son œuvre constructive, la création du musée basque, ses relations avec le monde intellectuel et artistique, Étienne Osso-Plotto qui évoquera Bona et ses élèves, Michel Faure qui présentera les horizons de la société depuis 1973, et enfin Isabelle Blain, qui, ancienne directrice de la médiathèque, nous fera entrer dans la modernité à travers la numérisation des bulletins. Je vous remercie.
Merci Madame la Présidente, et merci Monsieur le Maire également pour ses perspectives d'avenir. Elle guide notre chemin. Aujourd'hui et ce matin, comme on vient de vous l'annoncer excellemment, nous allons parler donc de sciences, lettres et arts de Bayonne. Science, on l'a déjà dessinée dans les propos qui ont été tenus. L'histoire est en tête. Certes, elle est une science conjoncturelle, contingente, mais c'est avec une méthode scientifique qu'elle est toujours abordée dans notre cercle. L'être, c'est notre bulletin. ce bulletin qui enrichit depuis de nombreuses années, et nous sommes là pour le célébrer, la réflexion, la recherche, la culture, l'interrogation. Et c'est là que les jeunes devraient, je l'espère, nous retrouver. Les arts. Eh bien, permettez une petite ouverture vers l'extérieur. Les arts, je pense au rôle éminent que notre société Sciences, Lettres et Arts, et grâce à sa présidente particulièrement, et Olivier Ribeton tout particulièrement aussi, a pu jouer pour le retour de la collection Gramont, les 150 toiles qui illustrent l'histoire de Bayonne par une famille dynastique remarquable. Donc, Sciences, Lettres et Arts. Bayonne. Bayonne, c'est une ville ouverte. C'est une ville ouverte parce que sa géographie le commande, parce que son histoire, sa population le commande aussi, et parce que le goût de l'invention, de ce qui n'est pas banal, est en quelque sorte l'un de ses traits dominants. Lorsqu'on se promène dans l'Hexagone ou ailleurs, Bayonne, c'est un bien-vivre, heureux, joyeux, festif, un bien-vivre, ensemble. Et c'est cet ensemble qui nous caractérise. Alors aujourd'hui, et ce matin, Olivier Ribeton va donc nous parler du rôle fondateur de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Et là, permettez que je salue tout particulièrement nos amis de la Société des amis du musée basque et de l'histoire de Bayonne. C'est une société qui n'est pas une société savante, mais qui n'est pas inculte pour autant. Loin s'en faut. Alors, je salue sa présidente, sa vice-présidente, son ancien président, et sur cette tribune même, monsieur l'ancien conservateur, j'allais dire presque émérite, mais il mérite tout, du musée basque, Étienne Rousseau-Ploto, qui est également membre des Amis du musée basque, comme votre serviteur. Nous sommes ici, donc, en parfaite famille. Olivier Ribeton nous en parlera. Étienne Rousseau-Ploto, après que aient été mentionnées les fondations de l'âme de la Société des sciences, lettres et arts, Rousseau-Ploto va nous parler de leur figure, de ces personnalités qui ont animé particulièrement à certains moments notre société. Elle est cette société qui, encore récemment, était illustrée par un légitime ruban rouge qui orne notre présidente. Ensuite, Michel Faure, qui est notre secrétaire, va, avec la précision qu'on lui connaît, essayer de déceler quels seront les horizons vers lesquels nous allons œuvrer dans les années qui suivent. Je l'attends avec non seulement intérêt, mais un peu d'angoisse. Et enfin, Isabelle Blin pour ce matin, qui nous va nous parler de la modernité, en ce sens que désormais, nos œuvres sont ouvertes à tous, à l'universalité, universalité mentionnée tout à l'heure par l'adjoint au maire, universalité grâce à la numérisation de nos bulletins et donc désormais de nos travaux. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je donne la parole à Olivier Ripton.
Bonjour, Egunon. Je vais vous présenter donc la création du musée basque et qui a porté au départ un sous-titre et de la tradition bayonnaise. Ce musée aurait pu être créé avant la guerre de 1914, mais après la guerre, à Pau se crée le musée béarnais, à Lourdes le musée pyrénéen, et la société savante locale de Bayonne reçoit beaucoup de reproches en disant « mais il faut absolument que vous actiez la création d'un musée basque pour garder les objets qui commencent à partir à Pau et à Lourdes au Pays basque lui-même ». Et il y a une personnalité que vous verrez apparaître qui est le commandant William Boissel, qui était vice-président du syndicat d'initiative du Pays basque, vice-président aussi de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, enfin, vous verrez que cette société a eu plusieurs titres, qui, dès juillet 1921, propose à la municipalité de Bayonne, à son maire Gabriel Castagnier, de créer un comité de propagande en faveur du musée de la tradition basque. Donc cette même année 1921, la société parfois a eu quelques scissions et puis s'est regroupée. Il y avait les deux sociétés savantes, celle des sciences, lettres et arts, et la Société bayonnaise d'études régionales qui fusionnent pour créer une Société des sciences, lettres, arts et études régionales de Bayonne qui, 10 ans plus tard, reprendra le nom d'origine, Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Et le président de cette nouvelle société, le commandant homme de Marien, jouera un rôle important. Et donc, certains ont pu trouver curieux que ce soit deux militaires qui, à la militaire, bâtissent à marche forcée ce nouveau musée à Bayonne. Et en même temps, certains penseront que c'est curieux, ce musée basque, et qu'on a appelé au départ de la tradition basque, on se demandait qu'est-ce qu'on mettait dedans, musée rural, à part le maquila, le béret, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Eh bien, ce sont les bourgeois de la côte basque, on va dire, qui ont milité pour créer ce musée, pour que le Pays basque, en entier, s'approprie, en fait, son histoire, son passé, son quotidien. Nous allons suivre le développement du musée basque jusqu'en 1954, année où il devient musée municipal contrôlé par les musées de France, et donc la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne laisse la gestion complète à ce moment-là à la ville de Bayonne et au musée de France. Il y a eu des prémices pour créer ce musée. Le personnage le plus important, Antoine Dabadie, géographe, linguiste, astronome, mécène, vous connaissez sans doute le château d'Abadia à Hendaye, membre de l'Académie des sciences. Il était membre fondateur de la Société des sciences, lettres et arts en 1873. En 1836, avec Chao, il publie « Études grammaticales sur la langue basque » dédiée aux basques des 7 provinces. Il poursuit des travaux sur la langue basque jusqu'à sa mort et la popularité de la devise qui, semble-t-il, lui est attribuée « Saspiak bat, les 7 font 1 » aura un succès jusqu'à nos jours. En 1851, Antoine Dabadie lance les fêtes euskariennes à Urugne. Donc il est le mécène de ces fêtes. Et ces fêtes sont organisées à travers tout le Pays basque et de France et d'Espagne, pour stimuler la renaissance de la langue et de la culture basque. La mort d'Antoine Dabadie en 1897 n'interrompt pas cette tradition, les fêtes perdurent encore une trentaine d'années. Mais l'année de sa mort est inaugurée à Saint-Jean-de-Luz, le premier congrès de la tradition basque, et la Société des Amis du Musée Basque récemment a offert au musée ce drapeau qui avait servi au défilé d'inauguration du congrès de la tradition basque à Saint-Jean-de-Luz. Et on y voit les 7 provinces, Navarra, Chiburua, Araba, Biscaya, Lapurdi, Guipuscoa. Donc c'est Saint-Jean-de-Luz qui accueille ce premier congrès en 1897. Et dans cette exposition, pour la première fois, on présente des objets, on met des costumes sur des mannequins, on installe une bibliothèque, et Saint-Jean-de-Luz aurait pu être choisi comme lieu particulièrement euskarien pour présenter ce musée basque. Mais on décide au final que Bayonne, capitale économique et culturelle, offrait une meilleure possibilité de développement de ce projet, malgré à l'époque une identité gasconne qui était fortement revendiquée par les Bayonnais. Un autre personnage joue un rôle important dans les prémices de la création du musée basque, c'est le conservateur du musée Bonnat de l'époque, et qui est directeur de l'école municipale de dessin et de peinture de Bayonne, Eugène Pascot, que l'on voit ici dessiné par Edmond Rostand. À la demande de Léon Bonnat, Pascot avait participé au congrès de Saint-Jean-de-Luz, et dès le début du XXe siècle, alors 1908-1909, il émet l'idée de la création d'un musée de la tradition basque à Bayonne, dans un rapport remis à la ville, et lui estime que pour ce musée basque, il n'y a que le château vieux, qui est le seul cadre à Bayonne digne de présenter des collections. L'autre personnage très important dans le développement de l'idée du musée basque, c'est Georges Herel, traducteur, ethnographe, professeur de philosophie, membre de la commission du musée Bonnat, membre de la Société des sciences et arts dès 1911, et lui propose l'appellation d'un musée régional de la tradition basque et bayonnaise. Alors, Herel, on le connaît par ailleurs pour être le grand spécialiste des pastorales du théâtre populaire du Pays basque. Donc, cette création d'un musée est présentée au conseil municipal de Bayonne par le docteur Crost dès le 2 novembre 1912. Ce conseiller municipal, qui est chargé des beaux-arts et de l'instruction publique, reprend une idée et cite les propos du docteur Adrien Dutournier, qui, dans une séance de l'École Salen Bilsara, regrette que le Pays basque ne possède pas de musée destiné à perpétuer le souvenir et le cachet spécial de la région. Et il y avait un personnage haut en couleur qui a été bibliothécaire à Bayonne, artiste peintre, c'est Ernest Faure, qui remet une note complète et détaillée sur le plan général d'un musée traditionnaliste. En septembre 1913, un double rapport de Louis Collat et d'Ernest Faure est remis à la ville. De son côté, Ernest Faure traite du contenu d'un futur musée d'histoire de la ville. Et en tant que secrétaire nommé secrétaire d'un musée de la tradition basque et bayonnaise, Faure doit rechercher dans les archives, à la bibliothèque et au musée de la ville les œuvres, gravures, médailles et estampes qu'il serait intéressant de voir figurer au nouveau musée local. Il veille à tout ce qui touche l'organisation de ce musée et à son fonctionnement. Et pour le côté artistique du musée de la tradition, M. Faure est placé sous la direction d'Eugène Pascot, conservateur du musée Bonnat. Donc dès le départ, il y a l'idée d'intégrer au projet des artistes du Pays basque. L'autre grand personnage, c'est Louis Collat, qui est professeur au lycée de Bayonne, qui dresse la liste des objets qui devraient être présentés dans des salles de préhistoire et d'histoire, mais il insiste surtout sur la nécessité de constituer une salle lapidaire basque avec les monuments funéraires, les stèles et les inscriptions murales, les linteaux. Le rapport de Collat et Faure en 1913 prévoit la reconstitution d'un intérieur basque en réunissant de nombreux objets authentiques. Il faut reconstituer une cuisine, une chambre à coucher. L'idée déjà illustrée en 1897 sera reprise en 1922, mais sans installation de mannequins revêtus de costumes. Les costumes sont présentés par ailleurs. Le rapport souligne l'importance de l'iconographie, la nécessité de réunir des collections de dessins, d'estampes, de cartes et plans illustrant le Pays basque et sa population. De même, l'accent est mis dès le début sur l'utilité de la photographie. La guerre de 1914, comme je vous l'ai dit, va interrompre ce projet déjà très avancé. Alors, Collat est surtout connu pour son œuvre majeure, la publication de la tombe basque à l'initiative de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, ouvrage publié en 1923, où il fait le premier recensement de tout, dans tous les cimetières des trois provinces de France, La Bourg, Basse-Navarre et Soule, de ces monuments. Voilà, alors chez son fils ou petit-fils, enfin je ne sais pas, récemment nous avons pu trouver cette photographie étonnante de Louis Collat, enquêteur du lapidaire en Pays Basque. Voilà les deux ouvrages. Enfin, il y a deux ouvrages principaux, un atlas d'illustrations et études, notes et références diverses, donc c'est un ouvrage majeur. Donc ce n'est qu'en 1922, dans sa séance du 11 juin, que André Delmas, conseiller municipal, propose la réalisation d'un musée basque de la tradition bayonnaise. Et le conseil municipal de Bayonne approuve deux mesures. La première, une convention passée avec la Société des sciences et des arts qui accorde à celle-ci les moyens d'agir au plus tôt. Et en fait, tout le travail de construction du musée basque est entièrement remis à la Société des sciences et des arts. D'autre part, on abandonne l'idée de mettre ses collections au Château-Neuf. Le choix de la maison d'Agourette s'impose. C'est un immeuble qui offre en plein cœur de la ville, au bord de la Nive, un bel écrin de pierre. Et comme on dit à l'époque, dans les rapports, il ne pouvait pas être question de construire à grands frais pour y placer le musée un édifice flambant neuf, où les vieilles choses du passé eussent paru des survivants surannés. Certains ont pensé au château vieux, mais il faut bien reconnaître que tout l'intérêt de l'édifice est dans son extérieur. L'intérieur est au contraire dépourvu d'intérêt. Donc il est une vieille maison qui probablement de toute la ville était la seule qui pouvait aussi bien convenir à notre fin. C'est la maison de l'ancien hôpital. Elle porte les numéros 1 de la rue Marengaud, 36 du quai de l'Entrepôt. Les façades sont d'une architecture sobre et intéressante de la fin du XVIe siècle. L'agencement de l'immeuble est idéal pour l'installation des musées. Un vestibule vaste, un très bel escalier d'un large mouvement, né d'une intéressante rampe de fer forgée. Un rez-de-chaussée immense qui laisse pour l'avenir de précieuses réserves de locaux. Premier étage, deux splendides salles largement éclairées et de nombreuses pièces se prêtant aux plus intéressantes combinaisons. Donc pour vous imaginer la rareté de l'architecture de cette maison d'Agourette, il faut se rappeler qu'avant le Second Empire, il y avait sur ce qui correspond au quai Roquebert aujourd'hui, des séries de maisons qui vont être détruites pour construire les halles de Bayonne, et que dans ces maisons détruites, on en avait plusieurs qui avaient des toits à double pente, plus proches des réalisations de maisons basses que d'immeubles de villa. Alors, la maison d'Agourette, qui a été fin XVIe, début XVIIe siècle, une maison de négociants, puis, dans un court moment, couvent des visitandines, à la fin du XVIIe siècle jusqu'au Second Empire, devient un hôpital civil sous le nom de Saint-Nicolas et après de Saint-Léon. Là, cette photographie du Second Empire montre son aspect du début du XVIIe siècle, encore avec des bandeaux de pierre, des meneaux, des balcons en façade sur la Nive. Sur le côté, sur la rue Marengaud, il subsiste encore, on peut le voir, une ancienne entrée et puis surtout le tour des enfants abandonnés qui rappelle son passé d'hôpital civil. Oui, bon. Sous Napoléon III, on construit un nouvel hôpital à Bayonne, à Tos. Et du coup, la vieille maison perd son rôle d'hôpital et est louée par les hospices à différents entrepôts, marchands de piano commerce. Il y a quelques appartements. Et du coup, la ville de Bayonne va devoir acheter aux hospices le bâtiment et peu à peu va reloger les locataires. Et au fur et à mesure que les locataires s'en vont, on ouvre de nouvelles salles. Et alors la façade, comme vous avez vu là-dessus, sur cette vieille photo, a été complètement chamboulée. Fini les balcons, fini les bandeaux de pierre, les meneaux. Et au moment de la création du musée basque, la société savante imagine des façades nouvelles. Et en 1923, Benjamin Gomez imagine vraiment une création hispano-basque. Et les frères Soupre proposent une façade navarraise. Au final, on va simplement... Alors, il faut savoir que la façade du Second Empire, qui existait encore au Second Empire, avait été rabotée. Pour tenir les murs, on avait mis un grillage, puis on avait enduit de ciment, puis on avait chaulé. Et donc, en 1922, on va au final décider de créer simplement une façade chaulée, des volets rouges, des jardinières de géranium et un grand panneau en bois avec les armoiries du musée. Alors, à l'époque, la Société des sciences et arts, qui au départ avait plus de 400 membres, mais qui va en avoir jusqu'à 600 membres, pendant la période de création du musée basque, va créer des comités. Et c'est le commandant William Boissel qui va être choisi pour lancer les opérations du musée. Et en juillet 1922, le but est donné, donner à tout instant une image aussi exacte et aussi complète que possible du Pays basque, de Bayonne et de ses environs. Dans le passé et dans le présent, on y trouvera des souvenirs matériels du passé, vêtements, outils, meubles, portraits, inscriptions, monnaies, reconstitutions d'intérieur, renseignements de toute nature. Mais le présent y aura aussi sa place, comme les petits métiers et les industries locales. Et l'expansion de ce peuple admirable qui dispersait aux quatre coins du monde, c'est maintenir ses traditions, conserver son langage et rester unis. Donc il y a une idée aussi de montrer l'expansion basque à travers le monde. On crée des commissions, architecture et art décoratif, vieux Bayonne, art et décoration, avec des personnages particulièrement représentatifs. Je vais citer art et décoration, créé au domicile du peintre Georges Bergès, et dont on choisit comme président d'honneur Ignacio Zuloaga, le peintre de Eibar, Guipuscoa, et le président effectif est Antonin Persona, qui sera plus tard l'exécuteur testamentaire de Léon Bonnat. Voilà un portrait du commandant William Boissel par José de la Peña. Donc c'est le premier directeur du musée basque, et il veut faire de ce musée l'image réduite des sept provinces basques et de leur bordure gasconne. Donc une organisation très structurée à la militaire, avec bien sûr un comité de propagande qui va envoyer des représentants à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Pau, à Rochefort et en Pays basque d'Espagne, à Saint-Sébastien, en Amérique latine, à Mexico et à Montevideo. Des commissions territoriales aussi sont créées pour aller chercher les différents objets. Alors, il y a une présentation courant 1923 uniquement pour les membres de la société des essais d'installation dans la maison d'Agourette. Et en 1924, il y aura trois présentations ouvertures au public, mais provisoires. Donc, sur le plan en haut à droite, on aperçoit une toute petite partie de ce qui sera le musée basque dans la partie maison d'Agourette avec ses présentations. À l'époque, les stèles sont présentées au premier étage sur un plancher avec les linteaux mis sur les murs. Cette salle des stèles est voisine de la chambre reconstituée et à l'époque la porte navarraise qu'on conserve toujours au musée basque avait été présentée entre cette chambre et la salle lapidaire. Les métiers, le sandalier, le chocolatier, sont aussi présentés dans de petits espaces. Louis Collat crée le logo du musée basque et à sa mort en 1929, la Société des sciences et arts écrit « Nous devons un hommage particulier à Louis Collat qui fut parmi les plus savants et les plus dévoués de nos conférenciers, tant par le nombre de ses communications que par la bonne grâce qu'il mettait à suppléer un orateur empêché au dernier moment. N'oublions pas non plus que la tombe basque a jeté sur son auteur et sur notre société d'éditrices un lustre dont l'éclat se propage par toute l'Europe savante. La stèle basque que la société offre par souscription pour être placée sur la tombe du regretté Louis Collat a été dessinée par notre vice-président, M. André Grimard, d'après le modèle choisi par la famille. Ce dessin a été exposé sur les murs de notre salle de réunion. Il reproduit la discoïdale qui figure sur la couverture de la tombe basque. Alors, pendant 10 ans, de 23 à 1933, l'essentiel du programme de la Société savante est réalisé et ce sont 42 salles qu'on arrive à ouvrir. Alors, en 1938, William Boissel demande au peintre d'origine madrilène, José de la Peña, mais qui vit à Anglette, de figurer les créateurs du musée dans une étonnante scène, les créateurs assistant à un sabbat, une salle de sorcellerie. Donc, parmi les personnages principaux ici représentés, de gauche à droite, nous avons Jules Apessex, marchand de tissus à Bayonne, André Constantin, juge au tribunal de commerce, et Berthe Grimard, la fille d'André Grimard, artiste peintre, qui va jouer un rôle considérable dans la première présentation du musée basque. Dans la partie droite de ce sabbat, on a Michel Aguirre, la secrétaire du musée, Urbero, qui est le concierge, le chanoine Daranatz, puis le commandant Boissel en militaire, Joseph Nogaret, dans une famille de protestantes originaires d'Orthès et qui a des pasteurs Nogaret à Bayonne, donc on a le chanoine et le pasteur, et Philippe Vérin qui va jouer aussi un rôle très important. Voilà, bon, des scènes de l'ancienne salle de la sorcellerie. Berthe Grimard est chargée de réaliser des cartes pour le musée basque de l'époque. Elle peint sur de grandes feuilles collées sur les murs. Le tour du monde de Sébastien Noël Cano, les chemins de Saint-Jacques, etc. Donc Ignacio Zuloaga, au final, ne va pas s'investir lui-même directement, il va offrir un joli dessin pour le musée basque de Bayonne. En revanche, un ami de Zuloaga et disciple, Ramiro Arrué, peintre né à Bilbao mais qui vit à Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, créer la première affiche pour le musée avec sa devise d'accueil « Celui qui rentre ici est dans sa maison » et « Menserchen de Nabere Tchanda ». Et cette affiche sert à indiquer plusieurs informations. Là, c'est simplement l'accueil au musée basque. Il vous intéressera et même il vous amusera. Mais souvent, les expositions temporaires d'artistes présentées chaque année au musée, dans la partie blanche du texte, on inscrit le nom des artistes. Curiosité, en 1926, à la demande de Boissel, Ramiro Arrué propose un diplôme d'honneur pour récompenser, dans le cadre d'une commission des sites et monuments du Pays Basque, tous les propriétaires de vieilles maisons qui ont remis à l'honneur les linteaux, les stèles et l'architecture traditionnelle de la maison basque. Rapidement, la Société des sciences et Tréhard, au départ, va être celle qui va publier le bulletin du musée basque. Ici, on a un projet d'affiche par Jacques Le Tanneur. Ce bulletin va paraître avec des projets de couverture variés. On va aussi en parler des différentes conférences dans l'ancienne salle de conférence de la maison d'Agourette, dont nous avons une représentation ici. Ici, Cusac dit que du coup, grâce au bulletin et grâce aux conférences, la société devient un institut des hautes études gasconnes et basques. Et l'inauguration se fait le 15 juillet 1934, par Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, et Léon Bérard, en présence de l'ambassadeur d'Espagne. Merci, nous aurions beaucoup de choses à développer, mais ce sera dans les actes du colloque.
Le rôle fondateur de la Société des sciences, lettres et arts dans la création du musée basque de la tradition bayonnaise, vous venez d'entendre l'intervention d'Olivier Ribeton, conservateur en chef honoraire du musée basque et de l'histoire de Bayonne, suite de la retransmission de cette rencontre scientifique de la SSLA la semaine prochaine sur cette même antenne, même jour, même heure. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des Associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdi, www.lapourdi.net.